Maintenant, commençons la conférence. La première question dont nous parlerons est celle de tuer des êtres vivants. C'est une question relativement délicate. Tous les pratiquants des voies orthodoxes ont l'absolue interdiction de tuer. Ce que font les gens ordinaires, nous ne nous en préoccupons pas. Il est impossible que chaque personne vienne cultiver le Falun Gong. Nous parlons seulement de la manière dont les pratiquants doivent agir. Pourquoi tout au long de l'histoire, beaucoup d'écoles de cultivation ont-elles considéré la question de tuer avec tant de sérieux? Pourquoi l'ont-elles interdit? Parce que les religions enseignent que tuer peut engendrer du karma. Tuer amène à commettre de très grands péchés et engendre pour soi-même beaucoup de mauvais karma. Alors on n'est plus capable de cultiver et pratiquer. En fait, comme nous l'avons dit, les gens sont au point où le karma s'amoncelle en roulant sur lui-même. On est arrivé au point où c'est devenu très dangereux pour tout le monde. Cependant, j'ai aussi dit que puisque l'homme a encore la nature de Bouddha, à cause de cela uniquement, nous lui enseignons une dernière fois le Fa. Bien sûr, lorsque j'ai commencé à faire cela, d'autres ont dit « L'humanité est déjà dans un tel état et pourtant tu veux encore lui transmettre ce Fa ?» Ce qui voulait dire que la moralité de l'humanité est maintenant déjà très corrompue et son karma énorme. Dans le passé, dans le bouddhisme originel, tuer se référait principalement à tuer des êtres humains, ce qui était le plus grave. Une personne ayant tué un être humain ne pouvait plus cultiver et pratiquer. Au cours de son développement, le bouddhisme a peu à peu pris très au sérieux le fait de tuer du gros bétail. Au bout du compte, le bouddhisme Mahayana, tel qu'il s'est développé jusqu'à nos jours, en est aussi venu à accorder aux êtres vivants de petite taille une très grande importance. Finalement, des moines sont allés à l'extrême. Ils avaient même peur d'écraser en marchant une fourmi ou un insecte, de sorte qu'ils marchaient en faisant de petits bonds. Ils s'assuraient qu'il n'y avait rien sur le sol et alors seulement ils faisaient un pas. Je dis qu'il est extrêmement fatigant de vivre comme cela. Tu sais, quand nous cultivons et pratiquons, nous devons le faire de manière ouverte et digne. Nous ne blessons intentionnellement aucun être vivant, mais nous, êtres humains, devons avoir un environnement de vie et une manière de vivre humain. Si c'est non intentionnel ou si tu marches sur un insecte dans la rue, je dis que, parce que dans le monde des organismes, il y a aussi la question de l'équilibre écologique. Il se peut que sa vie soit arrivée à son terme. N'est-il pas censé mourir maintenant? C'est peut-être comme ça. Car comme je l'ai dit, nous ne blessons intentionnellement aucun être vivant. Mais nous sommes censés avoir notre manière de vivre, notre environnement pour vivre et des conditions pour vivre. Nous ne devons pas nous comporter comme des gentlemen timorés et précautionneux à l'excès et tomber dans l'autre extrême. C'est aussi un attachement. N'est-ce pas un attachement? Je dis que c'est un grand attachement. Si tu te bases sur cette logique, dès que tu auras posé le pied par terre, tu n'auras à vrai dire écrasé aucun insecte ou fourmi. Mais au niveau microscopique, combien d'organismes et d'insectes beaucoup, beaucoup plus petits auras-tu écrasé? Un nombre incalculable. Alors n'est-ce pas tué? Cela veut dire que nous ne devons pas envisager ce problème ainsi. Ce que nous devons faire est cultiver convenablement, cultiver de manière noble et loyale. Notre vision doit se faire vaste. Nous voulons nous élever au niveau supérieur, nous ne devons pas sombrer dans les extrêmes. Alors pourquoi la question de tuer était-elle prise avec autant de sérieux? Les religions l'expliquent à leur manière. Ici, nous allons en parler en partant de la situation véritable telle que nous la voyons maintenant. Que le fait de tuer soit grave tient à deux raisons. Premièrement, nous avons découvert que lorsqu'une personne voit le jour, des doubles d'elle-même naissent simultanément dans de nombreuses, nombreuses dimensions. Ils ont la même apparence que toi, portent le même nom, et ce qu'ils font au cours de leur vie est généralement à peu près la même chose que toi. Bien sûr, il y a des différences sur des aspects mineurs, mais tout considéré, c'est à peu près la même chose. Dans un domaine déterminé de chaque espace de l'univers, un de tes doubles nés. Je dis que l'être humain est une entité très complexe. La connexion avec toi ressemble à celle des diagrammes scientifiques où une molécule, représentée par une boule, est liée à une autre par un trait. Une boule est liée à une autre par un trait, à une autre par un autre trait. Les traits s'entrecroisent dans toutes les directions. C'est un peu semblable à ces connexions et toi, tu en es le centre. Cependant, en même temps, ce sont des êtres vivants qui existent indépendamment de toi et pourtant, chacun d'entre eux est aussi toi. Dans un certain sens, on peut dire qu'ils forment un toi intégral. Alors il y a là un problème. Si à l'intérieur de tout cela, l'un des toi ou un être vivant n'a pas terminé le cours entier de sa vie et meurt tout à coup, à mi-parcours, qu'il soit tué ou qu'il meure dans un désastre naturel ou de la main de l'homme, il sera confronté à une situation très dangereuse. À savoir, l'être qui vient de mourir n'a nulle part où aller. Pourquoi n'a-t-il nulle part où aller ? Parce que l'être global auquel sa vie appartient doit attendre que tous ses doubles aient terminé leur chemin de vie. Ce n'est qu'alors qu'ils pourront ensemble rechercher leur destination finale. Ainsi, quand l'un d'eux meurt, il n'a nulle part où aller et doit attendre. Cette sorte d'attente est vraiment douloureuse. Dans le passé, les gens en parlaient. Dans le passé, les moines ne parlaient-ils pas de quelque chose comme la libération, d'extraire les âmes de la souffrance pour les amener dans le monde suivant ? En fait, la véritable signification d'élever les âmes était de sauver ces gens, ces âmes errantes et ces esprits affamés qui n'avaient aucun endroit où aller. C'est ce qui est dit dans la religion. Mais ainsi que nous l'avons observé, ce double est déjà tombé en grande souffrance. Alors il va réellement haïr la personne qui a attenté à sa vie. Durant toute cette partie de sa vie, il va continuer à la haïr. Son esprit va produire du karma. Il va engendrer constamment dans les airs des amas de karma et les diriger sur la personne qui a brisé sa vie. Ainsi, la personne qui a tué un homme, qui a tué un être vivant, accumule sans arrêt du karma. De plus, le fait de tuer à lui seul engendre beaucoup de karma. Il met un être vivant dans un état de grande souffrance, et pour une très longue période de temps. Voilà l'une des raisons de sa gravité. Nous avons vu qu'il en était réellement ainsi. Il y a aussi une autre raison. Comme je l'ai dit, dès la naissance d'un homme, tout le cours de sa vie existe et peut être observé, qu'il vienne de naître ou qu'il soit sur le point de la quitter. L'existence de sa vie s'est-elle formée naturellement ou a-t-elle été arrangée par quelqu'un ? En tout cas, elle n'est pas accidentelle. Si le déroulement de sa vie a été arrangé par quelqu'un, alors il ne s'agit pas seulement de sa vie. Chaque homme a dû venir dans cette société et accomplir toutes sortes de tâches. Comment accomplir le cours de sa destinée ? Quelles relations sociales sont engendrées entre les hommes ? Tout cela est ajusté et arrangé. Si un être vivant meurt, alors l'ordre social arrangé par les vies supérieures sera bouleversé, car on tisse des liens avec les autres par le travail. Ce qu'on produit, les autres en tirent bénéfice. Quoi qu'il en soit, des relations sociales de toutes sortes existent. Maintenant, ces relations sociales sont bouleversées. Par conséquent, si une personne tue un être vivant, même une vie supérieure ne lui pardonnera pas non plus. Alors pense-y, cette personne peut-elle encore cultiver et pratiquer ? C'est aussi grave que cela. Par le passé, dans les écoles des petites voies mondaines, leur maître n'était pas à un haut niveau. Quand une telle personne avait tué un être vivant, même son maître devait rencontrer des malheurs. Voilà le principe. C'est pourquoi la question de tuer, à notre avis, est en effet très grave. Cela implique aussi la question de la compassion. Spécialement dans la cultivation de l'école de Bouddha, on doit faire attention à la compassion. Sans compassion, on ne peut pas offrir le salut à tous les êtres vivants. Alors tuer ne dénote-t-il pas un manque de compassion? Cela n'entraîne-t-il pas aussi la question de la compassion? Derrière toute chose, il y a un lien de causalité. Quoi que tu en penses. Peut-être devais-tu quelque chose à d'autres personnes dans le passé, alors ils viennent maintenant te faire du tort. C'est peut-être le cas. Mais je dis que tout cela est aussi... Bien sûr, commettre des méfaits, si une personne commet intentionnellement des méfaits, elle devient alors incontrôlable. Ayant perdu le contrôle de soi, elle peut agir et engendrer du karma. Voilà la situation que nous avons vue. C'est pourquoi nous expliquons cette question à tous très sérieusement. En plus, nous avons découvert que la vie de beaucoup d'êtres vivants est la même que celle des êtres humains. Si ce qu'enseigne le bouddhisme à propos des six chemins de la réincarnation est vrai, alors quelle est la différence entre l'âme d'un animal et l'esprit d'un homme ? Bien sûr, si on avait le temps, je citerai quelques exemples découverts par la science actuelle. C'est pourquoi, pour toi, nous avons traité cette question avec sérieux. Si tu veux cultiver et pratiquer dans le Falun Dafa, alors tu ne dois plus tuer. Bien sûr, nous sommes dans le sud ici. En été surtout, si on ne mange pas les choses pendant qu'elles sont fraîches, elles se mettent à puer et à pourrir très rapidement. De toute façon, ce que nous faisons est d'enseigner le fa aux pratiquants. Nous n'expliquons pas aux personnes ordinaires comment bien vivre. Comment cette question doit-elle être traitée? Je pense... Bien. Chacun doit décider de cela pour lui-même. En parlant de tuer, comme je l'ai dit, nous ne devons pas devenir des gentlemen précautionneux à l'excès sur des questions aussi triviales qu'écraser une fourmi en marchant. Si tu regardes cela de cette façon, puisque tout ce que nous mangeons est vivant, nous devrions tous nous garrotter le cou et arrêter de manger et de boire. Alors comment pourrions-nous cultiver et pratiquer? Donc, nous ne pouvons pas faire cela. Certains peuvent aussi demander, que faire avec les mouches et les moustiques? Il y a beaucoup de moustiques dans le sud, que doit-on faire? Ils piquent les gens tout au long de l'année et les mouches sont dégoûtantes. Tu es un pratiquant, ainsi tu n'as pas peur des maladies. Concernant les enfants, les mouches peuvent amener des microbes. Je dis que c'est facile de s'en occuper. Tu peux les mettre dehors. Mettre dehors une mouche n'est pas un problème. Évidemment, les moustiques sont difficiles à chasser. Ils restent tranquilles dans les coins sombres. Quand tu essayes de les faire sortir, ils ne bougent pas. La nuit, ils sortent à nouveau et te piquent. Je pense que cela doit être traité comme suit. J'ai dit que les êtres humains doivent avoir un environnement approprié à la vie humaine, un espace pour vivre humainement, une façon humaine de vivre. Si un moustique pique les gens et que tu le tapes, si tu le tues, alors tu le tues. Comme pratiquant, tu n'as pas peur de lui, mais les enfants dans ta famille pourraient être piqués. Cela pourrait amener des problèmes. Qu'en sera-t-il s'ils attrapent une maladie contagieuse? Cela pourrait arriver. Ainsi, si tu le tues, alors tue-le. Cependant, nous ne faisons pas de mal aux êtres vivants sans raison. Cela est juste limité à ce genre de choses. Dans le cas des autres êtres, il ne t'est pas permis de les tuer simplement parce qu'ils t'ennuient. Je peux aussi te donner un exemple. L'histoire suivante remonte à 2500 ans, lorsque Shakyamuni enseignait Fa dans l'Inde ancienne. Un jour, Shakyamuni voulut prendre un bain. C'était dans la forêt et les conditions étaient très rudimentaires. Il demanda à l'un de ses jeunes disciples de lui nettoyer la baignoire. La baignoire n'était probablement pas semblable, je pense, aux baignoires modernes. Peut-être était-elle faite de pierre et n'était pas très lisse. Son disciple est allé nettoyer la baignoire, mais il l'a trouvée remplie d'insectes. Il y avait des insectes qui fourmillaient partout. Comme c'était une baignoire en pierre, il était difficile de les en faire sortir. Ce jeune disciple a vu que s'il essayait de faire sortir ces insectes, alors il allait peut-être les tuer. Donc il retourna la situation dans tous les sens. Il n'y avait rien à faire, si ce n'est de les tuer. Il s'en retourna et dit à Shakyamuni, « Maître vénérable, la baignoire grouille d'insectes. » Voulant dire par là, « Si je commence à nettoyer, ces insectes seront tués. » Shakyamuni ne lui jeta pas un regard et dit simplement une phrase et il lui dit à nouveau « Va nettoyer proprement la baignoire ». Puisque Shakyamuni le lui enjoignit, il y alla, mais tergiversa et s'en revint à nouveau. Il pensait peut-être que Shakyamuni n'avait pas compris ce qu'il disait. Ainsi il dit, « Maître vénérable, la baignoire est pleine d'insectes. Si je commence à nettoyer la baignoire, je vais les tuer. » Voyant que le disciple n'avait toujours pas compris, Shakyamuni dit, « C'est la baignoire que je veux que tu nettoies. » Le disciple soudainement s'éveilla. Il nettoya alors la baignoire et Shakyamuni prit son bain. Ceci pour dire que nous ne pouvons pas nous arrêter de marcher parce qu'il y a des insectes sur le sol, ni nous arrêter de prendre des bains parce qu'il y a des insectes dans la baignoire. Les légumes et les céréales sont des entités vivantes. Devons-nous pour autant nous garrotter le cou? Cela n'irait pas. Les êtres humains vivent de cette manière. À propos de tuer, dans le passé, les grands êtres vivants étaient toujours considérés comme très importants. Les petits êtres vivants sont aussi pris très au sérieux. Cela dit, nous faisons de notre mieux pour éviter de tuer, pour éviter de telles choses. Mais nous devons maintenir notre environnement de vie, et ce n'est pas faux non plus. Au passage, parlant de cela, laisse-moi mentionner qu'il y a de faux qigong ou des pseudo-qigong qui parlent aussi de cette question de tuer. Que disent-ils? Ils disent qu'il est permis de tuer le 1er et le 15e jour du mois, selon le calendrier lunaire chinois. D'autres disent encore qu'on peut tuer tout ce qui a deux pattes. Alors ceux qui ont deux pattes ne sont-ils pas des êtres vivants? Tuer un homme le 1er et le 15e jour ne serait pas commettre un crime? Pour distinguer un maître de Qigong authentique d'un imposteur, on peut le faire en considérant les paroles qui sortent de sa bouche. On sait tout de suite s'il est hérétique ou orthodoxe. Parlant de cette question de tuer, venons-en à parler de manger de la viande. Certains demandent, manger de la viande, est-ce considéré comme tuer? Manger de la viande ne compte pas comme tuer. Comment cela se pourrait-il? Tu n'es pas celui qui a tué, tu as simplement un attachement à la viande. En parlant de manger de la viande, tout d'abord parlons de la question des attachements. La viande est très savoureuse et en manger crée une dépendance de sorte que certaines personnes n'ont pas d'appétit s'il n'y a pas de viande. Ils n'ont pas l'impression de manger un repas. Pourquoi? Comme elle est très savoureuse, elle crée une dépendance. Ainsi, les gens veulent en manger. Bien sûr, à vous tous qui assistez au séminaire, je ne dis pas que dès maintenant, vous ne devez plus manger de viande. Je ne dis pas cela. Nous avons notre propre façon de faire. Premièrement, parlons de manger de la viande. Manger de la viande est un attachement très fort. Cultiver et pratiquer requiert d'abandonner cet attachement. Laissez-le tomber. Réfléchis. Je viens de parler d'attachement. Quand je faisais un séminaire dans le Nord-Est, il y avait trois personnes qui sortaient du parc. C'était le matin. Je passais par la porte du parc. Et ces trois personnes discutaient à haute voix. L'une d'elles disait, « Qui pratiquerait un système de qigong qui stipule de ne pas manger de viande? Même si je devais abandonner 10 ans de ma vie, je mangerais encore de la viande. Il abandonnerait 10 ans de sa vie pour manger de la viande. Pense à quel point son attachement à la viande était fort. Il aurait même abandonné sa vie pour cela. Alors ne faut-il pas abandonner un attachement aussi fort? Oui, on doit l'enlever. » Le but principal de ne pas te laisser manger de la viande est justement de te faire renoncer à cet attachement. Un attachement que les personnes ordinaires ne peuvent pas abandonner. Nous enseignons Fa. En son temps, Shakyamuni enseignait selon les exigences de son école. Il n'enseignait pas les principes généraux du Fa. En fait, la véritable raison de ne pas t'autoriser à manger de la viande est de te faire vraiment abandonner tous les attachements possibles. Et ce n'est pas limité seulement à la viande. Supposons que tu dises « J'aime juste manger cette nourriture-ci. J'aime uniquement manger cette nourriture-là. » Tout ça, ce sont des attachements. Ils doivent tous être éliminés. Mais comment traitons-nous cette question dans notre école? Chaque chose dans notre système, nous insistons sur le fait que le Fa raffine le pratiquant, ce qui est aussi appelé le Gong raffine le pratiquant. Quand tu n'es pas en train de pratiquer, le Gong te raffine. Alors de nombreuses étapes proviennent du Gong. Quand certains pratiquent, ils pleurent. Quand ceux-ci pratiquent, tel état apparaît. Pour d'autres, c'est tel autre état. Certains, quand ils pratiquent, deviennent incapables de manger de la viande. Pourquoi ? Parce que dans notre gong, il y a une chose qui élimine ton attachement à la viande. Ainsi, toi-même, tu ne dis pas artificiellement « désormais, je vais arrêter de manger de la viande ». Bien sûr, pour ceux d'entre nous qui ne mangeaient pas de viande auparavant, continuez de cette façon, ça va. Maintenant, nous parlons de nos pratiquants en général. Je ne dis pas que tu dois arrêter de manger de la viande, mais tu découvriras, si tu continues à pratiquer notre Falun Dafa, tu remarqueras un jour, soudainement, que tu ne peux plus manger de viande. L'odeur de la viande te semblera repoussante. Si tu en manges, tu auras envie de vomir. Tu auras la nausée. Cela se passera de cette façon, c'est garanti. Bien sûr, les gens sont différents. Il y a des gens qui normalement peuvent avaler tout un bol de viande. Le désir d'une telle personne est très fort. Mais à son niveau actuel, ce qui va éliminer son attachement n'est pas encore assez fort. Alors, bien qu'il trouve la viande peu appétissante, il peut encore en manger. Mais dès qu'il le fait, il a mal à l'estomac. Cela lui indique qu'il ne peut plus en manger. Ainsi, peut-on en conclure que désormais, nous n'aurons plus d'affinité pour la viande, que nous ne serons plus jamais capables d'en manger ? Non, ce n'est pas le cas. Dans notre système, le but principal du Siolian n'est pas de te faire renoncer à quoi que ce soit de matériel. Le but principal est que tu renonces à tes attachements humains ordinaires, à ces choses dont tu ne peux pas te détacher. Alors, lorsque cet attachement a été abandonné, tu pourras découvrir un jour que tu peux à nouveau manger de la viande. Elle n'a plus d'odeur nauséabonde et quand tu en manges et la goûtes, elle te convient. Alors tu peux en manger. Pas de problème. Si tu peux la manger, vas-y. Si tu en es incapable, alors évidemment ne le fais pas. Si tu es capable d'en manger, c'est que ton attachement a été éliminé. Et quand tu remangeras de la viande, tu trouveras qu'elle n'est plus aussi savoureuse. Quand on en préparera à la maison, tu la mangeras avec les autres. Et s'il n'y en a pas, tu n'y penseras pas. Ainsi, cet attachement aura disparu. Le but aura été atteint. C'est bon. Et dès lors, si tu manges de la viande, nous ne nous en préoccupons pas. Mais cultiver et pratiquer parmi les gens ordinaires est compliqué. Et tu ne sais jamais si cet attachement va surgir à nouveau. Si dans ta famille, on en prépare toujours et que tu es continuellement entouré de son odeur, tu pourras à nouveau en devenir dépendant. Alors la situation peut se répéter plusieurs fois. Tout à coup, un jour, tu ne seras plus capable de manger de la viande. Après un temps, quand cet attachement aura été éliminé, tu pourras en manger à nouveau. Bien sûr, en général, dans notre système, la répulsion pour la viande dure habituellement peu. D'habitude, c'est à peu près 2 mois. Pour certaines personnes, cela passe en 1 ou 2 semaines parce que normalement, elles ne sont pas trop attachées à la viande. Cela passe très rapidement. Pour certaines personnes, cela dure pendant un temps, mais cela ne va pas au-delà de 6 mois. Dans les cas habituels, cela n'excède pas 6 mois. Dans la plupart des cas, il faut 1 mois ou 2 pour éliminer cet attachement et après, c'est en ordre. Voilà ce que nous enseignons à propos de la question de manger de la viande. Dans le bouddhisme originel, on ne parle pas de s'abstenir de viande. Quand Shakyamuni guidait ses disciples et enseignait le fa dans la première période, il n'y avait pas de précepte préconisant l'abstinence de viande. Maintenant, la viande est considérée comme une nourriture taboue. Elle est interdite par les préceptes. En fait, je dis que le bouddhisme aujourd'hui est un bouddhisme réformé parce que lorsque Shakyamuni a établi le bouddhisme, il n'y avait pas de précepte à l'encontre de la viande. Il recommandait d'éliminer tout attachement humain concernant les diverses nourritures, ne pas faire le difficile. Mais il n'a pas parlé spécifiquement de la viande. Comme je l'ai dit, il est inacceptable pour toi d'avoir un attachement à quoi que ce soit. Si tu aimes manger quelques nourritures particulières, tu découvriras un jour que tu auras la nausée aussitôt que tu les vois ou que tu auras des aigreurs d'estomac. Tu ne pourras plus les manger. C'est pour éliminer ton attachement. Cela peut arriver pareillement pour d'autres nourritures. Quand Shakyamuni enseignait le fa dans les premières années, quand il donnait son enseignement en Inde, pourquoi n'a-t-il pas parlé de s'abstenir de viande ? Parce qu'en ces temps-là, le monde n'était pas aussi peuplé. Beaucoup de régions étaient sous-développées et la surface des terres cultivées dans le monde entier était très limitée. Le pays était couvert de forêts et de lacs. Les céréales étaient alors très rares. De plus, beaucoup de gens qui sortaient tout juste de la société primitive vivaient une vie de nomade ou même vivaient de la chasse. Donc, en ce temps-là, dans certaines régions, la viande jouait un rôle de première importance dans le régime alimentaire. La nourriture était très limitée et il n'y avait pas de place pour ceux qui faisaient les difficiles. Pourquoi Shakyamuni a-t-il emmené ses disciples mendier la nourriture ? C'était pour que les moines n'aient aucun désir des gens ordinaires. Les êtres humains ne peuvent se débarrasser de l'argent. Je ne vais pas te permettre de toucher à l'argent. Je vais t'amener à quitter ta maison. Les gens aiment ceci ou cela. Je ne t'autoriserai à avoir aucune de ces choses. Tu n'auras qu'un bol pour mendier et je te contraindrai à te débarrasser de tous les attachements. Bien sûr, les attachements humains, il est très difficile pour un être humain de cultiver et de pratiquer. Leurs attachements se montrent en tout temps. Ainsi, comme le temps passait, certains moines se mirent à comparer leur bol de mendiant. Regarde comment la pierre sur le mien est sculptée. Son apparence est vraiment belle. Puis il ajouta, le mien est superbe. Certains en sont venus alors à dire, le mien est en argent, le mien est en cuivre, le mien est en jade. Ainsi, on s'est mis à comparer les bols de mendiant. Certains ont commencé à les collectionner, disant, j'en ai trouvé un beau, je vais le garder. Je vais garder quelques bols de mendiant. Shakyamuni a vu cela et donna pour tout le monde une conférence sur le fa qui se focalisait sur le sujet de ces bols de mendiants. Il a dit, ne sois pas attaché à ces choses. Si tu veux être attaché à cela, retourne à la maison. Il y a plein de bonnes choses dans ta maison. Vas-y et collectionne-les. Pourquoi conserves-tu comme précieux même un bol de mendiant? À quoi bon? Ainsi, il fit une conférence sur le fa simplement sur la question de ces bols de mendiants. En ce temps-là, je l'ai dit, Shakyamuni cherchait par sa manière de guider ses disciples dans la cultivation à éliminer au maximum leurs attachements. Donc, en agissant ainsi naturellement, les moines n'ont plus cultivé la terre ni fait de commerce. Ils ne travaillaient plus. Alors la source de leur nourriture est devenue un problème. Que faire? Il emmenait ses disciples mendier de la nourriture, faire l'aumône. En ces temps-là, les céréales et autres nourritures étaient très rares. Les gens te donnaient ce qu'ils mangeaient ou leur reste. Dans beaucoup de régions, ils mangeaient principalement de la viande. Quand ils avaient fait manger et qu'il en restait un peu, ils t'en donnaient. Tu n'en voulais pas? Il était même difficile d'obtenir un repas par jour et le pays était peu peuplé. Par conséquent, il n'interdisait pas de manger de la viande. Il n'y avait aucun précepte interdisant de manger de la viande. Mais en ces temps-là, il y avait aussi des nourritures interdites ou taboues. Pourquoi avait-il rendu certaines nourritures taboues? Les nourritures taboues qu'il mentionnait n'étaient pas la viande. Maintenant, on en a fait une nourriture taboue. Tu sais, le fa de Shakyamuni peut être résumé en trois mots. Précepte, recueillement, sagesse. Les préceptes, les règles concernant l'abstention, avaient pour but d'atteindre la concentration et la concentration était le cœur de son école. Ce qui revient à dire qu'on devait s'asseoir en méditation et cultiver véritablement. Regarde comment actuellement les moines semblent prendre pour tâche principale la lecture des Écritures. Bien, prendre la lecture des Écritures comme tâche principale est bien aussi, mais tu dois cultiver et ils ne le font pas. Beaucoup de moines même ne lisent pas beaucoup les Écritures. 3 repas par jour et on va se coucher. Dans les salles de méditation, tu vois une épaisse couche de poussière sur les bancs de méditation parce que personne ne s'assied plus dessus. Tu dois t'asseoir en méditation et cultiver effectivement, mais personne ne cultive. Dans ces temps reculés, la pratique effective durait toute la journée. Tu t'asseyais en méditation nuit et jour. C'était l'activité principale. Maintenant, on ne fait plus cela du tout. Alors, puisque c'était l'un des aspects principaux pour élever son niveau, si quelqu'un te dérangeait, tandis que tu étais assis en méditation, on considérait que c'était le plus grand préjudice. Si un moine mange des choses comme des oignons, du gingembre ou de l'ail, l'odeur forte en irrite les autres de sorte que ceux-ci ne peuvent entrer dans la tranquillité. Alors, on ne pouvait pas cultiver. Car en ces temps-là, les moines s'asseyaient pour méditer en cercle de 8 ou 10 personnes dans une forêt ou dans une grotte. Mais avec une odeur si forte qui irrite, comment les autres auraient-ils pu entrer dans la tranquillité? Ainsi, à cette époque, il était explicitement stipulé que les oignons, le gingembre et l'ail étaient tabous et ne devaient pas être mangés. Voilà d'où vient le tabou des moines concernant les oignons, le gingembre et l'ail. En fait, dès que ces choses-là sont cuites, elles ne sentent plus. Il n'y a plus ce problème. C'est pourquoi il était défendu de manger des oignons crus, du gingembre ou de l'ail. À l'époque où le bouddhisme est venu en Chine, il avait déjà été réformé en Inde pour devenir le bouddhisme Mahayana. Les préceptes s'étaient multipliés. Les exigences visaient le Siolien du fa d'un bodhisattva ou même le fa d'un bouddha. Comme tel, les exigences des préceptes étaient supérieures. Cela impliquait de considérer la viande comme une nourriture taboue, d'en interdire la consommation. Voilà ce qui s'est passé. Je viens de parler des raisons qui ont amené l'interdiction de manger de la viande. Vous savez, beaucoup de moines ont atteint un haut niveau dans la cultivation et découvert que manger ou non de la viande n'est pas essentiel du tout. Certains, spécialement dans la province du Guangdong et dans l'Asie du Sud-Est, ont l'expression suivante. Si tu leur demandes « cultives-tu pour devenir Bouddha ?» comme si ces mots étaient démodés, ils ne disent pas qu'ils cultivent pour devenir Bouddha, ils disent « ma famille est végétarienne ». Ils sous-entendent « je cultive pour devenir Bouddha ». Ils prennent le fait d'être végétarien comme équivalent à cultiver pour devenir Bouddha. Mais on en est bien loin. Si tu ne manges pas de viande, tu as simplement renoncé à un attachement qui concerne uniquement la viande. Mais les attachements humains sont si nombreux. Comme je l'ai dit, il y a se faire valoir, la jalousie, des mentalités de toutes sortes en très grand nombre. Alors pour toi, renoncer à cet unique attachement signifierait la cultivation pour devenir Bouddha? Je dis que c'en est loin. Cela ne peut pas représenter la cultivation vers la bouddhéité. On est dans cette période de fin du fa et on est dans la confusion. On pense que si on ne mange pas de viande, alors on peut atteindre la bouddhéité, mais cela ne marchera pas. Si ton xinxi ne s'élève pas, en ne mangeant pas de viande, même en jeûnant, tu ne réussiras toujours pas. C'est comme cela. Tu dois vraiment t'élever toi-même. Seulement ainsi, cela marchera. Tu dois faire ton expérience parmi les gens ordinaires, t'aguerrir dans l'environnement le plus compliqué. C'est la seule façon par laquelle tu pourras t'élever dans la cultivation et te débarrasser de tout ce qui est mauvais dans ton corps humain. Je viens juste d'expliquer comment nous considérons la question de manger de la viande dans le Falun Gong. Ainsi, nous ne te forçons pas artificiellement. Bien sûr, auparavant, certaines personnes s'abstenaient déjà de viande, alors qu'elles continuent de cette manière. En fait, lorsque tu atteins un très haut niveau dans la cultivation, tu dois le faire, mais nous, pour moi-même, certaines personnes demanderont « qu'est-ce que le maître mange ?» Je mange de tout, mais je ne mange pas des choses toxiques comme par exemple des serpents venimeux et autres extravagances. Je mange des plats habituels et s'il y a de la viande, j'en mange comme tout autre, mais je n'y suis pas attachée. S'il y en a, j'en mange jusqu'à ce que je sois rassasiée, voilà. Mais prends principalement en considération le fait que je suis venue pour répandre Fa. Comme c'est ce que je dois faire, il est donc inévitable d'avoir de nombreuses activités sociales telles que des réceptions. Quand Shakyamuni répandait Fa en son temps, il était confronté au même problème. En parlant de manger de la viande, parlons au passage de boire de l'alcool et de fumer. Parce que tout ça, ce sont des dépendances humaines et les dépendances sont des attachements. Si tu es dépendant, tu es attaché. Tu ne peux pas y renoncer. Dans le passé, dans les religions, on disait que boire de l'alcool perturbe notre nature et si ta nature est dans le chaos, n'agis-tu pas à tort et à travers? Comment alors peux-tu encore cultiver et pratiquer? On dit aussi dans le taoïsme que boire de l'alcool bloque les canaux d'énergie. Vrai ou faux, nous n'en parlons pas. Nous avons vu que tout ce qui se développe sur ton corps par la cultivation, spécialement ce qui appartient à l'école de Bouddha, est dérangé par l'odeur de l'alcool. Ces choses n'aiment vraiment pas l'odeur de l'alcool. Quand tu bois de l'alcool, tous ces êtres vivants dans ton corps, y compris ton gong, quitteront ton corps. Ils ne resteront pas sur ton corps. L'odeur est très forte. Pour cette raison, je t'encourage vivement à ne pas boire. Bien, qu'en est-il alors de ces activités sociales inévitables comme les réceptions? Maintenant, spécialement dans le Sud, avec les réformes et l'ouverture, personne ne va te forcer. On te demande ce que tu veux boire, tu choisis une boisson non alcoolisée, tu obtiens un Sprite, ou tu choisis une eau minérale, et lui une bière. À mon avis, c'est laissé à ton libre choix. Je dis que si vraiment tu refuses de boire, personne, selon moi, ne t'y forcera. Des gens qui ne cultivent et ne pratiquent pas disent que boire un peu d'alcool peut stimuler la circulation du sang. Il semble qu'il y ait des effets bénéfiques pour la santé. C'est ce que dit une personne ordinaire. Mais comme pratiquant, quelle circulation veux-tu revigorer? As-tu besoin de revigorer ta circulation sanguine avec cette chose-là? Ensuite, parlons de fumer. Fumer. Les gens disent que boire du vin peut... Pour les personnes ordinaires, boire de l'alcool peut revigorer le corps, n'est-ce pas? Boire un peu d'alcool peut chasser un rhume chez les vieilles personnes. C'est ce qu'on dit. Pour le moins, dans la médecine chinoise, on emploie des vins médicinaux. En passant, mentionnons ceci. Dans la mouvance de l'école taoïste, il y a quelques écoles qui cultivent le grand Tao en accordant de l'importance à la consommation d'alcool. Ce n'est pas le cas de toutes celles qui cultivent le grand Tao. On ne s'arrête de boire que lorsqu'on est ivre et une fois ivre, on dort et on ne se réveille pas pendant plusieurs jours ou plusieurs mois, voire plusieurs années. Pourquoi fait-on ceci ? Je te le dis, celui qui agit ainsi ne le fait pas par attachement, mais parce qu'il ne cultive pas son propre soi, mais son esprit originel secondaire, sa conscience secondaire. On utilise l'alcool pour se rendre inconscient et seulement alors on peut cultiver. C'est vraiment tragique. Beaucoup de gens savent qu'à travers l'histoire, de nombreux immortels pouvaient dormir très longtemps. On les honorait beaucoup. À mon avis, c'est vraiment lamentable. Eux-mêmes ne savent pas qui cultive. Ce n'est qu'à la dernière étape qu'ils comprendront. Bien sûr, s'agissant du fa que nous enseignons aujourd'hui, une grande partie ne doit pas être connue par l'homme. Tu sais, quand le fa de Shakyamuni s'est répandu, beaucoup étaient laissés à la capacité d'éveil de chacun. Mais aujourd'hui, nous en avons parlé très explicitement. Mais nous faisons cela en fonction de l'époque, en accord avec cette période historique très spéciale. Si tu devais enseigner le fa comme c'était fait auparavant, les gens ne viendraient pas écouter. C'est même plus difficile pour les gens actuels de s'éveiller. Même si le fa est clairement exposé, on n'arrive pas nécessairement à l'appliquer. Certaines personnes viennent encore avec des questions embrouillées. Bien sûr, la qualité d'éveil diffère d'une personne à l'autre. Revenons à la question de fumer. On dit que boire de l'alcool apporte quelques bienfaits aux personnes ordinaires. Mais la fumée n'apporte pas le moindre bienfait aux gens. Certains disent, quand il y a eu une campagne contre la fumée, certains fumeurs ont commencé à dire que fumer peut aider le cerveau à se reposer. Que ça peut relaxer le système nerveux ou que c'est bon pour le travail mental. Je dis que c'est se mentir à soi-même et duper les autres. La fumée ne peut absolument pas éclaircir le cerveau. Elle ne te permet pas non plus d'obtenir un avantage quelconque. Au contraire, elle te fait précisément du tort. Alors pourquoi certains se sentent reposés après avoir fumé ? Pourquoi cette sensation ? Comme je l'ai dit, c'est un effet psychique. C'est se duper soi-même. Tu penses qu'il en est ainsi, tu y crois simplement, alors cette disposition psychique crée un tel effet. En même temps, le fait de se sentir mieux ne résulte pas d'avoir fumé une cigarette. Cela vient du fait que lorsque tu fumes, tu ne fais rien d'autre. Tu es assis là, au repos, ce qui te permet de te relaxer. Ce n'est pas la fumée qui te repose. C'est pourquoi fumer n'a aucun avantage. Vous savez, comme pratiquants, nous devons purifier notre corps. Continuez toujours à le purifier constamment pour nous hisser jusqu'au niveau supérieur. Même les gens malades cherchent à purifier leur corps pour n'avoir plus de maladies. Nous t'aidons constamment à purifier ton corps. Le gong joue ce rôle. Mais tu y déverses toi-même continuellement de la fumée par bouffée entière. Vous savez, actuellement, lorsqu'on dit que tu ne dois pas fumer, lorsqu'on dit que c'est mauvais pour ta santé et qu'on explique aux gens les effets de la fumée, on donne de nombreux exemples. Par la dissection, on a découvert que la trachée, les bronches, les passages où l'air circule et les poumons des fumeurs de longue durée sont tout noirs. La trachée et les bronches sont noirs. Dans les cas graves, même les lobes des poumons sont noirs. Même l'œsophage est noir. Ce qu'on dit est tout à fait vrai. Après dissection, on l'a montré pour que tout le monde puisse voir. C'est tout noir. Bien sûr que c'est noir. Tu sais, dans le Nord, les gens du Nord savent que lorsque les cheminées sont utilisées pendant longtemps, tu dois les nettoyer. Sinon, elles vont s'encrasser. Les tiennes ne sont pas nettoyées et de la matière noire y est constamment déversée. C'est sûr que ça devient tout noir, n'est-ce pas ? En plus, comme pratiquant, tu dois constamment être purifié et pourtant tu te pollues toi-même sans cesse. Selon toi, concernant cela, à quel principe te conformes-tu ? Aussi, je dis, si tu veux vraiment pratiquer le gong, alors laisse la cigarette. As-tu jamais vu un pratiquant bouddhiste ou taoïste ou dans le temple, une statue de Bouddha, assis là avec une cigarette ? Certains ne peuvent arrêter. Tu dis, je ne peux pas arrêter, la raison principale est que tu n'as pas la force de volonté. Tu ne veux pas arrêter. Ta dépendance est trop forte. Bien sûr, sans motivation, il te semble très difficile d'arrêter. Je te le dis, si tu veux cultiver, arrête dès maintenant. Par bonheur, tandis que je parle aujourd'hui de cela, quand je parle de la fumée, j'émets quelque chose qui te rendra la saveur du tabac très désagréable si tu fumes à nouveau. Tu auras un mauvais goût dans la bouche. Alors ta dépendance deviendra beaucoup plus faible. C'est pourquoi arrête dès maintenant. Maintenant, c'est une chance. Si tu n'arrêtes pas maintenant, il n'y aura plus de chance comme celle-ci. Nous venons de parler de la question de tuer et de manger de la viande. Ensuite, abordons le thème de la jalousie. C'est une chose très grave. Nous devons en discuter particulièrement. Nous devons en faire l'objet d'une discussion. On ne peut pas ne pas en parler. Vous savez, lorsque j'ai discuté du Xinxing, j'ai toujours parlé en général. Dans ma conférence, je n'ai pas traité en détail tel ou tel attachement. Mais nous devons le faire pour la jalousie. Pourquoi ? Parce qu'elle se manifeste avec la plus grande intensité parmi les gens d'aujourd'hui, parmi les gens modernes. Beaucoup de gens commettent des méfaits par jalousie. Beaucoup de gens se sont rendus malades, ne dorment pas bien, ne mangent pas bien. C'est également dû à la jalousie. Cela entraîne de graves perturbations pour l'humanité d'aujourd'hui. C'est pourquoi cherchons quelle en est l'origine, comment elle surgit. Tu sais, nous les Chinois sommes très introvertis. Les étrangers, les Occidentaux trouvent cela étrange. Comment les Chinois en arrivent-ils à se comporter comme cela ? Que ce soit bien ou mal, ils n'en disent rien. Ils parlent d'une manière alors qu'il s'agit en fait de tout autre chose. En fait, c'est de la modestie. Mais les étrangers ne le comprennent pas parce qu'ils sont très extravertis. Ils disent ce qui est. Les gens en Chine sont différents. Quand ils sont fâchés, tu ne peux pas le voir. Quand ils sont contents, non plus. Bien sûr, être bien élevé et être très réservé est une bonne chose. Mais cela comporte aussi un aspect négatif. Nous devons regarder les choses des deux côtés. Nous devons les voir dialectiquement. Ce caractère introverti vient du confucianisme chinois qui enseigne la maîtrise de soi, la réserve et à ne pas révéler ses propres forces. L'humanité se trouve aujourd'hui dans cette période de fin du Fa. Que ce soit dans le confucianisme, dans le taoïsme, dans le bouddhisme ou dans le catholicisme, le christianisme, combien de gens agissent en accord avec ce qui est demandé ? Cela veut dire qu'il n'y a plus de fa qui subsiste dans leur cœur. La fin du fa est arrivée. Alors quand un tel temps est arrivé, quand l'homme devient incontrôlable, quelque chose comme notre caractère chinois introverti peut conduire à une intense jalousie. Je viens de dire que les étrangers sont extravertis. Donnons un exemple. Prenons un étranger. Quand il est content, tu le vois. S'il est fâché, tu le vois aussi. Et quand, dans quelques instants, il s'apaisera, tu pourras aussi le voir. Tout cela se manifeste et il pense que c'est normal. Il n'accorde pas d'importance à quelque chose comme la modestie. Il pense qu'on doit être réaliste, mais les Chinois ne pensent pas ainsi. C'est pourquoi les différences sont énormes. Les Chinois sont tout à fait introvertis, alors que les Occidentaux sont tout à fait extravertis et peuvent s'extérioriser. Prenons un exemple. Tu travailles dans un pays étranger. Tu fais bien ton travail, le chef en est content. Il va te donner une gratification. Il te donne plus d'argent. Un étranger est très extraverti, il est vraiment content. Il compte son argent devant tout le monde, billet par billet, disant « Hé, le patron m'a donné tout cet argent ». Et alors, tout content, il le met dans sa poche et s'en va. Il n'en fait mystère à personne. Mais un Chinois ne pourrait pas le faire. Si tu travailles bien et que ton chef ou ton contremaître te donne une gratification, tu la ramasses furtivement, tu l'empoches rapidement. Tu ne veux pas que les autres le sachent. Pourquoi ? Parce que les autres en seraient jaloux. Même tes bons amis n'auraient pas le cœur à le supporter. Ils se mettraient à dire « Viens, emmène-nous dîner, sortons ». Ils exigeraient que tu les invites. Ainsi, deux sortes d'attitudes différentes vont conduire à des conséquences différentes. Dans un pays étranger, si un enfant obtient la meilleure note à l'école, il en sera enchanté. Il courra à la maison, tenant dans sa main le travail écrit en disant « J'ai eu la meilleure note, j'ai eu la meilleure note », sautillant et bondissant tout au long du chemin de retour vers la maison. Ses voisins ouvriront peut-être leurs fenêtres et diront « Hé, Tom, bon travail !»« Super, Jack, fais de même la prochaine fois !» Les voisins partagent sa joie. Mais si cela se passait en Chine, cela aurait des conséquences fâcheuses. Cet élève a obtenu la meilleure note. Il rentre enthousiaste à la maison. « J'ai obtenu la meilleure note, j'ai obtenu la meilleure note !» Les voisins dans la rue, avant même qu'une fenêtre ou une porte ne s'ouvre, ils se mettraient à maugréer. Qui a-t-il à fanfaronner ? Ainsi, tu as obtenu la meilleure note, la belle affaire. Qui n'a jamais obtenu la meilleure note ? C'est pourquoi différentes conceptions amènent des conséquences différentes. En fait, c'est la manifestation de l'attachement. C'est simplement de la jalousie. Cette jalousie rend les relations interpersonnelles très tendues. Les gens se manquent de respect les uns les autres et se font des coups tordus dans le dos. Les étrangers ne peuvent pas le comprendre. Ils disent « Vous, les Chinois, vous vous battez toujours entre vous et vous vous créez vous-même des ennuis. » Ceux qui sont sortis du pays savent que les étrangers disent « Comment en êtes-vous arrivés, vous, les Chinois, à être aussi peu solidaires ? » Celui-ci crée des ennuis à celui-là, celle-ci en crée à celle-là. Disons qu'une personne est engagée et fait un bon travail. Bientôt, il y aura quelqu'un qui envenime les choses et répand des propos malveillants à son sujet. Mais les gens d'autres pays, quand ils se trouvent à l'étranger, simplement pour dire que notre peuple... Donc, la jalousie perturbe nos contemporains tout à fait gravement. Il en va de même pour les pratiquants. Tu viens juste de commencer sur ce chemin de Xiulian, alors à cet égard, tu as beaucoup de points faibles, beaucoup de jalousie dont tu dois te débarrasser. Pourquoi est-ce que j'aborde cette question avec tant de sérieux? Parce qu'il y a une règle gravée dans la pierre qui dit « Si tu ne te débarrasses pas de la jalousie, tu n'obtiendras jamais le fruit juste ». Peu importe que sous d'autres aspects tu aies bien cultivé, il ne te sera pas permis de réussir. C'est pourquoi cette question est très grave. Même parmi les pratiquants, elle se manifeste aussi très fortement. Parmi les gens ordinaires, entre eux, il y a un manque de solidarité. Il se crée beaucoup de facteurs qui conduisent à un manque de solidarité. Dans leur cœur, ces gens se sentent déséquilibrés. Pourquoi se sent-il déséquilibré dans le cœur? Principalement parce qu'il pense « Tu as deux mains et tu portes une tête, et moi j'ai deux mains et je porte une tête. Pourquoi devrais-tu gagner plus que moi ?» Bien sûr que le même travail est rémunéré différemment. Superficiellement, il semble que cela dépend du travail bien fait ou du travail mal fait, de la qualité du travail. Mais en fait, cela est dû aux qualités innées de la personne. Il y a quelques années, lorsque l'égalitarisme absolu était populaire, on disait que tous les gens étaient nés identiques et que c'est seulement ce qui arrivait après la naissance qui changeait la personne. Je dis que cette affirmation est trop absolue. Pourquoi existe-t-il des hommes et des femmes? Pourquoi maintenant des bébés naissent-ils avec une maladie? Actuellement, c'est même encore plus bizarre. Certains naissent avec des cheveux, des dents ou peuvent parler. Il y a toutes sortes de possibilités. Donc les gens ne sont pas tous pareils. On dit que ce qui arrive après la naissance change la personne. À mon avis, ce n'est peut-être pas le cas, parce que le cours de la vie a été arrangé de cette manière longtemps auparavant. Comment les gens pourraient-ils être pareils? Lorsqu'on parcourt cette vie, on ne fait que suivre le chemin prédestiné de sa vie. Alors, si on n'a pas telle ou telle chose dans sa vie, comment pourrait-on les obtenir par force? On ne le peut pas. C'est pourquoi on devient jaloux. On ne peut pas bien manger, on ne peut pas bien dormir, on ruine sa santé et avec le temps, on devient vieux, on devient pessimiste, déçu, amer, déséquilibré. On souffre de toutes sortes de maladies et on est complètement abattu par ses échecs. C'est parce qu'on ne peut pas voir ce principe. C'est le principe dont je parlais auparavant. Tu vois quelqu'un de bon à rien, à l'usine, il apparaît tout à fait incapable. Tandis que toi, tu fais toutes choses bien et chacun te complimente. Ou bien tu es dans le même bureau et quoi qu'il fasse, cela tourne mal. Et quoi que tu fasses, cela semble bien. Mais c'est lui qui est promu au comité exécutif et il devient même ton chef. Alors dans ton cœur, tu en deviens tout perturbé et tu vas à gauche et à droite te plaindre. Les êtres humains ne comprennent pas ce point. Quoi qu'il soit tout à fait incompétent, il a cette promotion dans sa vie. Tu es compétent, mais tu ne l'as pas dans ta vie, n'est-ce pas? Alors peu importe les efforts que tu fais, cela ne marche pas. Sauf si tu commets des méfaits majeurs pour enlever aux autres ce que tu n'es pas censé obtenir, dans ce cas, tu engendreras beaucoup de karma. Les gens ordinaires ne peuvent pas se rendre compte de cela. Alors avec le temps, ils deviennent vieux, ils n'ont rien. C'est pourquoi ils sont déçus et déprimés. Même dans la vieillesse, ils ne peuvent toujours pas renoncer à cet attachement et mènent une vie fatigante. Ils sont dans la confusion et ne savent pas comment vivre. Bien sûr, notre conférence est pour les pratiquants. Voilà ce qui en est. Parmi les gens ordinaires, la jalousie se manifeste tout à fait intensément, mais elle peut aussi être observée parmi les pratiquants. Naturellement, l'ampleur et les circonstances sont différentes. Lorsque quelqu'un pratique mieux que toi, tu en deviens perturbé intérieurement. Même parmi les directeurs de nos centres d'assistance, certains sont tout chamboulés lorsqu'ils sont remplacés. Bien sûr, la plupart le prennent tout à fait bien. « Ce n'est pas bien », pourrait dire quelqu'un. Je suis meilleur que lui. Pourquoi m'a-t-on abaissé et lui a-t-on donné mon rôle? T'ai-je attribué un poste de haut fonctionnaire ou t'ai-je demandé de servir les autres? Si tu veux être un haut fonctionnaire, sois-le au travail et tu feras aussi beaucoup d'argent. Ici, chacun est bénévole. À quoi peut-on être attaché? Tu consacres tes efforts entièrement au bénéfice des autres. Certains ont emporté à la maison des banderoles et ne veulent plus les rapporter, comme si elles t'avaient été données personnellement. Elles sont pour promouvoir le Falun Gong. Chez toi, à qui vas-tu faire de la promotion pour le Falun Gong, n'est-ce pas? C'est nous empêcher de faire de la promotion. Comment peux-tu dire que tu vis selon le critère d'un pratiquant? Est-ce que ce que tu fais est correct? N'y a-t-il pas là un problème? Bien sûr, il y en a peu comme cela dans notre école, très peu. Mais dans les autres écoles, c'est plus grave. Dans les autres systèmes, ils se battent entre eux pour de l'argent. Ils ne sont pas unis, et il y a aussi des luttes entre les différents systèmes. L'un des systèmes maudit un autre, et en retour, cet autre système maudit le premier. C'est le chaos. N'est-ce pas causé par la jalousie? Tu es bon, lui est mauvais. Tu es bon, lui est mauvais. Tout cela, ce sont des attachements des gens ordinaires. C'est être une personne ordinaire. Qu'y a-t-il de bien à pratiquer le gong dans ce cas? C'est inutile. Naturellement, il est très difficile de se débarrasser de cela. Dans la cultivation du Tao dans l'ancienne Chine, il y avait aussi des personnes de ce genre. Beaucoup avaient ce genre d'attachement. Par exemple, dans un livre, on raconte comment Jiang Ziya a été désigné par le maître originel céleste pour attribuer des titres aux déités. Cheng Gongbao n'a pu l'admettre. Il en est devenu très jaloux et a dit « Si on me coupait la tête, je pourrais la remettre sur mes épaules. » Et pourtant, tu as choisi ce vieillard Dekati. C'est à lui que tu demandes de faire cela et pas à moi. Et c'est ainsi qu'il lui a créé des ennuis. Bien que ce soit seulement une histoire, cela illustre ce point. À travers l'histoire, la jalousie a toujours existé parmi les disciples d'un même maître. C'est une question très sérieuse. Si tu ne peux pas te débarrasser de la jalousie, jamais tu ne réussiras dans le Xiaolian. Dans le passé, si tu parlais de pouvoir divin dans un monastère, c'était tout à fait naturel. À l'époque de Shakyamuni, on parlait de pouvoir divin. Shakyamuni utilisait des pouvoirs divins. Parmi ses 10 meilleurs disciples, Mu Jianlian était le numéro 1 concernant les pouvoirs divins. Et parmi ses 10 meilleurs disciples féminins, Lian Huase était la numéro 1 en pouvoir divin. Il y a de nombreuses histoires à leur propos. Mais si tu discutes des pouvoirs divins dans les monastères d'aujourd'hui, on dit que tu dévis dans un état démoniaque. Pourquoi? Parce que dans les monastères, il y a ces abbés et ces moines de haut rang. Bien sûr, il y a eu beaucoup de maîtres qui étaient de grands moines à travers l'histoire chinoise, mais cela est allé de mal en pis. Chaque génération est devenue pire que la précédente, et ce qui a été transmis jusqu'à présent est même devenu pire. C'est pourquoi dans les monastères, le supérieur et ses moines de haut rang ne sont pas nécessairement des gens de grande qualité innée. Ils sont simplement vieux, et c'est leur tour d'occuper ces postes. Ce sont des titres attribués par des gens ordinaires, pas par les Bouddhas. Bien sûr, lorsqu'on devient un supérieur, on est servi par les autres, et on a ses aises. Mais plus on est servi, moins on fait d'efforts. Moins on souffre et plus il sera difficile de réussir sa cultivation. Mais un petit moine qui travaille au fourneau et qui prépare la nourriture n'est pas nécessairement une personne de faible qualité innée. Tu ne peux pas le juger à son rang. Plus il souffre, plus il lui sera facile de devenir éveillé. Donc un jour, il devient éveillé et les moines de tout le monastère viennent à lui pour lui poser des questions. Le supérieur pense « Comment est-ce que je peux rester le supérieur ?» Peut-on continuer encore ainsi? Il en devient terriblement jaloux. Pourquoi ne suis-je pas éveillé alors que lui, il l'est? Non, ça ne va pas. Il est tombé accidentellement dans la voie démoniaque. Jetez-le hors du monastère. Mettez-le à l'écart. Graduellement, cela a conduit à la situation d'aujourd'hui, où lorsque quelqu'un parle de pouvoir divin dans un monastère, on dit qu'il s'agit de déviation démoniaque. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire concernant la question de la jalousie. C'est une question très grave. Beaucoup de gens dans la société actuelle, c'est-à-dire quand l'humanité tombe dans cet état, la jalousie conditionne beaucoup de choses. Il ne reste pas beaucoup de temps. Ensuite, parlons de la relation entre le traitement des maladies par les hôpitaux et le traitement des maladies par le Qigong. Chacun sait que le traitement des maladies par le Qigong Le qigong est le niveau le plus inférieur du siolien. Ceci pour dire qu'un maître de qigong est en fait un pratiquant. Quand un pratiquant traite des maladies, cela peut marcher. Un pratiquant d'un haut niveau peut atteindre le niveau où l'on dissout le karma. Un pratiquant de niveau inférieur ne peut pas atteindre le niveau où l'on dissout le karma, mais il peut refouler la maladie. Ainsi, tu ne l'as pas maintenant, mais tu l'auras dans une demi-année ou une année plus tard, ou quelques années plus tard, ou lorsqu'il la repousse au loin, elle peut se transformer en d'autres calamités. Tu n'as plus de maladie, mais peut-être ta famille affrontera quelques désastres, ou celle-ci sera transférée sur ta parenté ou sur tes bons amis. Ce genre de problème surviendra. C'est pourquoi les maîtres habituels de Qigong, qui sont encore en cours de cultivation, ne peuvent pas atteindre le but de dissoudre le karma. Ils peuvent seulement en différer l'effet ou le transformer. Comme beaucoup de maîtres de Qigong cultivent leur conscience secondaire, ils ne savent pas ce qu'eux-mêmes font au juste. Comment cela arrive, comment les maladies sont guéries, ils ne le savent pas. Tout ce qu'ils savent, c'est que la maladie est partie. Le patient lui aussi constate qu'il se sent mieux et soulagé, qu'il semble ne plus y avoir de maladie du tout. Mais ils ne peuvent pas vraiment résoudre le problème. Seuls ceux qui cultivent à un très haut niveau peuvent vraiment extirper le problème à sa racine. Mais qu'ils soient de haut ou de bas niveau, durant ces années, ces pratiquants ont guéri les maladies de beaucoup de gens et rendu la santé à beaucoup de monde. Cela est bien connu du public. Autrement, pourquoi y aurait-il autant de pratiquants de Qigong? C'est une activité populaire qui ne peut pas être ignorée. Je dis qu'il y a plus de 100 millions de gens qui pratiquent maintenant le Qigong. Une activité à ce point populaire, à si grande échelle, à travers tout le pays, tu ne peux alors pas prétendre qu'elle n'existe pas. Tu ne peux pas nier son existence. Pourquoi les gens y croient-ils autant? Parce que réellement, elle peut contribuer à accélérer la guérison. Dans l'espace matériel où existent les gens ordinaires, on ne se soucie pas de savoir où la maladie s'en est allée. En tout cas, on se sent bien maintenant et la santé est renforcée. Ainsi, cela peut jouer ce rôle et on peut atteindre un tel état. En d'autres termes, personne ne peut nier l'effet que le Qigong a sur la santé des gens. Cependant, il y a quelques médecins plutôt bornés qui ne croient pas au Qigong. Aussitôt que tu mentionnes le Qigong, cela leur arrache des paroles tout à fait hostiles, tout à fait déraisonnables et non scientifiques. Ils disent « Si ton Qigong peut guérir des maladies, pourquoi as-tu besoin de nous, les médecins ?» Voilà leurs propos. C'est tout à fait déraisonnable et ça a cloué le bec à plus d'un. Certains maîtres de Qigong en sont restés sans voix et ne savaient plus quoi répondre. En fait, dans le Qigong, quand un pratiquant traite des maladies, quand il emploie le Qi, quand il emploie des méthodes issues du Shulian, il utilise pour guérir la maladie des gens ordinaires ce qui appartient au Fa d'un niveau supérieur, ce qui est au-delà du Fa du niveau des gens ordinaires. Cela veut dire qu'il intervient dans les affaires des gens ordinaires. Lorsqu'un pratiquant fait cela par compassion et à petite échelle pour des gens, pour un petit nombre de bonnes personnes, et que cela n'a pas un grand impact sur la société, ce n'est pas un problème. Mais en faire une profession n'apportera définitivement aucun bénéfice. Un véritable pratiquant peut faire cela pour ses disciples. Ce n'est pas un problème non plus. Cependant, si ce Qigong, si ce qui est issu du Shulian est amené à la société et utilisé dans les hôpitaux ou les centres de réhabilitation, ou si des groupes de maîtres de Qigong se forment pour traiter les maladies, tu verras. L'efficacité de leur traitement connaîtra un sérieux déclin. Habituellement, leur traitement marche à peu près du premier coup. Mais alors, cette fois-ci, ils deviendront comme les hôpitaux. Ils auront besoin de plusieurs séries de traitements et ce ne sera pas nécessairement aussi bien que dans les hôpitaux. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce qu'il n'est pas permis de perturber arbitrairement la société des gens ordinaires. On ne peut pas mêler à sa guise le fa extraordinaire à celui des gens ordinaires. Tu veux arbitrairement détruire les principes des gens ordinaires? Ce niveau appartient simplement à ce niveau du fa. Tu veux sans raison le perturber? Comment cela pourrait-il être permis? Voilà le principe. C'est pourquoi on ne peut pas établir pour cela des hôpitaux. On ne peut pas le faire à une large échelle. La vogue du Qigong, apparue ces dernières années, a été une situation spéciale dans une période historique spéciale. Ce temps est révolu. Autrement dit, Fondamentalement, le Qigong ne peut pas remplacer les hôpitaux. Il ne peut pas réellement le faire. Mais peut-il traiter les maladies ? Oui, bien sûr qu'il le peut. Si l'on veut amener une personne dans l'état où elle peut cultiver et pratiquer, n'importe quelle affection ou maladie compliquée peut être éliminée de son corps. Voilà ce qu'il en est. Lorsque quelque chose de supérieur, quelque chose qui provient d'un très haut niveau est utilisé pour traiter les maladies des gens ordinaires, bien sûr, ça a des effets miraculeux. Mais ces choses-là ne peuvent pas déranger sur une large échelle la société humaine ordinaire. Naturellement, il y a certains maîtres de Qigong qui disent que des hôpitaux ne peuvent pas traiter les maladies, que les médicaments sont du poison et que la chirurgie est un meurtre. À mon avis, ces paroles sont à nouveau trop absolues. On ne sait comment certains deviennent des maîtres de Qigong. Ils établissent des définitions dès qu'ils ont un brin de compréhension. Bien sûr que les hôpitaux peuvent traiter les maladies. S'ils ne le pouvaient pas, qui irait à l'hôpital pour des traitements ? Des choses ne sont-elles pas enlevées par la chirurgie ? Tu n'admets pas qu'elles puissent traiter les maladies ? Prendre des médicaments peut effectivement avoir un effet. Autrement dit, les hôpitaux peuvent effectivement traiter les maladies. Mais il y a un point qui doit être souligné. Pourquoi y a-t-il beaucoup de maladies à l'heure actuelle qu'on ne peut pas diagnostiquer ? Et pourquoi y a-t-il beaucoup de maladies qui peuvent être diagnostiquées mais pas guéries ? Cela tient au fait que les techniques médicales sont au niveau des gens ordinaires. Elles se développent en correspondance avec le développement de l'ensemble de l'humanité et de sa science. Elles ne peuvent pas se développer d'une manière spéciale. Mais telle maladie est au-delà du domaine des gens ordinaires. Parce que, comme je l'ai dit, la maladie est du karma. Certains karmas sont grands, hauts comme une montagne. Aussi, c'est très difficile à traiter. Une partie de ce karma est, pour ainsi dire, alimentée par un tuyau. Il revient aussitôt que tu en as traité un peu. Ce genre de choses est très difficile à guérir. On ne peut pas le guérir. C'est pourquoi les méthodes médicales ne vont que jusque-là. Elles sont capables de guérir certaines maladies et incapables d'en guérir d'autres. Pour cette raison, les hôpitaux disent que les maladies doivent être traitées tôt. Si elles sont encore petites, elles sont faciles à traiter. Quand elles sont devenues graves, elles sont difficiles à traiter. Il y a quelques vérités à cela. Ayant abordé le traitement des maladies, parlons de la médecine chinoise, parce qu'elle est directement liée au Qigong. Actuellement, il y a de nombreux instituts de médecine chinoise qui pratiquent le Qigong. Fais attention à ne pas pratiquer de pseudo-Qigong. Ils font du tort à tous ceux qui les étudient. Dans la Chine ancienne, la médecine chinoise a joué un grand rôle. Et de grands médecins comme Sun Simiao, Hua Tuo, Li Shichen, Pian Chui et d'autres sont apparus. De plus, selon ce qui est consigné dans les traités médicaux, toutes ces personnes possédaient des pouvoirs extrasensoriels. Comme je l'ai dit, la science chinoise ancienne était beaucoup plus remarquable que la méthode scientifique actuelle venue de l'Occident à l'époque moderne. Ces développements auraient été beaucoup plus rapides. Mais le peuple chinois a une particularité unique. On dit « si je ne rencontre pas la bonne personne, je ne transmettrai pas ce que je sais ». Je l'emporterai plutôt avec moi dans mon cercueil. Alors forcément, beaucoup de choses ne sont pas tombées dans le domaine public et graduellement, elles ont été remplacées par les choses très très concrètes de l'Occident, où on ne peut reconnaître que des choses concrètes et réalistes. Maintenant, la médecine se développe en suivant ce chemin qui, j'ai dit, est très lent. Dans l'Antiquité chinoise, la médecine était, à mon avis, beaucoup plus développée que la science moderne. Elle était, en comparaison, beaucoup plus développée que la science moderne occidentale. Certains peuvent ne pas me croire et disent que les moyens médicaux modernes de traitement et de diagnostic sont très avancés. Prenons la tomographie par ordinateur, l'échographie par ultrasons, les images par rayon X, etc. On peut même voir les maladies dans tes organes internes. Je dis, pas nécessairement. Tu sais, les traités de médecine montrent que les grands médecins comme Hua Tuo, Sun Simiao, Li Shichen, Pian Chui et d'autres possédaient tous des pouvoirs extrasensoriels. Leur œil céleste pouvait voir le corps humain. De plus, avec un niveau élevé, depuis là, et regardant une personne, je peux voir tes quatre côtés. Je peux voir les tissus de ton corps, couche après couche, et je peux aussi dépasser cette dimension et voir la racine originelle de la maladie dans un autre espace. Est-ce que ta médecine moderne peut accomplir cela ? Ta médecine moderne est loin de cela. De plus, j'emmène mon propre dispositif avec moi où que j'aille, et cela ne consomme pas d'énergie. Ton équipement ne fonctionne pas sans électricité, en plus il est très encombrant, il est très difficile à déménager, tandis que cette chose se déplace avec moi. Alors laquelle des deux, selon toi, est la plus développée ? Il en va de même lorsqu'on parle des effets thérapeutiques. Quand j'étais dans la ville de Qijiar, j'ai vu un homme qui arrachait les dents. Ce n'était pas du bluff. Il n'aurait pas été capable de me leurrer. Il avait une pile de dents arrachées, haute comme cela. Il avait étendu un morceau de tissu sur le sol et y avait déposé une pile de dents. C'était le matin et beaucoup de pratiquants de Qigong sortaient du parc et passaient par là pour le plaisir. Lorsque quelqu'un avait une mauvaise dent, on disait « Peux-tu arracher cette dent pour moi ?» Il ne demandait rien pour arracher les dents, il le faisait simplement pour que les gens achètent son médicament. Il avait une petite bouteille de sa médecine, pas plus grosse qu'un petit flacon de streptomycine. À l'intérieur, il y avait une sorte de liquide jaune d'où émanait une vapeur jaune très forte. Alors que faisait-il? Tu as une mauvaise dent? Laquelle? Il dévissait le bouchon de plastique et mettait la bouteille contre la joue vis-à-vis de la mauvaise dent. Puis il te demandait d'aspirer une bouffée d'air, comme ça. Le liquide jaune n'était pas utilisé du tout. Puis il refermait la bouteille et la mettait à l'écart, et tandis qu'il parlait de l'efficacité de son médicament, il cherchait en se tâtant de ci, de là. Que cherchait-il ainsi? De sa poche, il sortait une boîte d'allumettes et en prenait une. Ensuite, il soulevait la joue de la personne. Cela durait seulement un petit moment. Puis il prenait l'allumette, l'appuyait contre la dent, et avec une légère chiquenaude, la dent tombait. De plus, il y avait seulement une légère trace de sang. Cela ne saignait pas. Il arrachait les dents pour toute personne qui en faisait la demande. Personne n'était renvoyé. Il avait une telle pile de dents. Là, j'étais étonnée. Je vis que le médicament était tout à fait puissant. Il n'était pas quelqu'un de la région parce qu'on peut reconnaître les gens du Nord-Est. Et lui n'était pas du coin. À notre avis, beaucoup de choses se transmettent parmi les gens. Il y a encore beaucoup de bonnes choses. Si tu vas chez un dentiste occidental, tu dis que la médecine occidentale est avancée. Si tu vas chez un dentiste occidental pour te faire arracher une dent, ce sera mauvais. Les instruments sont brillants et chromés, ils tournent même automatiquement. Avec les courroies automatiques, c'est très beau et les chaises sont très belles aussi. Mais à quoi bon tout cela? Regardons son efficacité. Regardons la performance pratique. Tu es assise ici, on doit t'arracher une dent. Bien, comment procède-t-on? Premièrement, il te fait une piqûre anesthésiante, qui bien entendu n'a pas un effet instantané. Injecter l'anesthésiant fait mal aussi. Une piqûre ici, une autre là, les injections te font crier. De toute façon, dans un petit moment, ce sera insensible. Une fois que c'est insensible, il arrache. Vous savez probablement tous comment cela marche. Il prend une grosse paire de pinces, des vraies pinces en fer, et crac, 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 d'un coup sec, il sort ta dent. C'est simplement tirer, rien d'autre que tirer. Mais la dent se casse et la racine reste à l'intérieur. Que doit-il être fait alors? Il prend un grand marteau de fer et un ciseau, comme ceux d'un charpentier. Bang, bang, bang. Il essaie de l'extraire. Même si tu n'as pas mal dans ta chair, tu en as mal au cœur. Tu frémis et tu trembles. Non sans peine, il arrange tout cela et cette fois-ci, il amène à lui un instrument sophistiqué et commence à fraiser. Tes nerfs sont... Il fraise jusqu'à te faire sauter de ta chaise, n'est-ce pas? Tu dois encore cracher beaucoup de sang. Ensuite, tu vas à la maison et tu dois récupérer pendant un moment avant de pouvoir retourner pour faire placer une fausse dent. Alors, laquelle des méthodes est la plus avancée? Le premier homme utilisait simplement une allumette et sortait la dent avec une légère chiquenaude. Bien sûr, ce n'est pas pour abaisser quiconque ou pour déprécier la médecine occidentale, mais c'est pour dire comment est toute chose aujourd'hui. J'ai dit que la science médicale de la Chine antique était en effet très avancée. Mais lorsque je dis cela, je ne parle pas de la médecine chinoise moderne. La médecine chinoise actuelle est le produit issu de la combinaison des médecines chinoises et occidentales. Les premiers diplômés des instituts de médecine chinoise ont été formés par des médecins de la médecine occidentale. Maintenant, leurs méthodes de diagnostic et de traitement sont ceux de l'école occidentale. Beaucoup de méthodes proviennent de la médecine occidentale. Bien sûr, parmi nous, assis ici, il y a des médecins de médecine chinoise. Ne pense rien de négatif. Ce que nous décrivons est un phénomène général. La médecine chinoise courante est réellement comme cela. Quelle que soit l'excellence de tes compétences, il n'y a plus de Hua Tuo, de Li Shi Chen, ni de Pian Chui. La médecine chinoise actuelle s'est développée, elle a été popularisée et s'est répandue, mais son essence a été critiquée et on n'en a hérité que quelques expériences et quelques prescriptions. Aujourd'hui, puisque nous abordions le sujet, j'ai mentionné cela. C'est tout pour aujourd'hui.